France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 2016, Camille Jusat revisitait 8 lieux ayant marqué l'histoire de l'architecture. Dans le 4e épisode de cette série, 55 ans après son inauguration, c'était vers l'aéroport d'Orly qu'elle embarquait les auditeurs du Génie des lieux, le temps d'un documentaire naviguant entre la modernité poétique des premières années d'existence de l'aérogare et son éprouvante réalité du XXIe siècle. Un documentaire auquel les échos de la bande-son du film de Chris Marker, La Jetée, apportaient de la plus élégante manière l'inquiétante beauté des terrasses et du ciel d'Orly, de ces horizons saisis en 1961, au-delà desquels, plus loin encore, comme Céline l'écrivait, c'est les pays inconnus, la Chine, et puis rien du tout. Le génie des lieux, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité, une émission diffusée le 31 juillet 2016 sur France Culture.
Bonjour madame.
C'est à quel sujet ?
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?
Le génie des lieux. Camille Jusat, Lionel Quentin.
Arrivée en prenant de porte numéro 47.
Et donc peut-être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte. Regardez-moi la tête que ça a. On dirait une trifilerie de pétrole.
C'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez ?
Ben, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Épisode 4, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité.
À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices.
Mamie, si je te parle d'Orly, ça t'évoque un souvenir ?
Oui, a priori, ça me rappelle un souvenir assez drôle. Ça devait se passer vers 1961. Et avec mes deux petites filles, je devais repartir en Algérie. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai été un peu accablée d'apprendre que l'avion qui devait nous ramener venait juste de partir d'Alger. La perspective d'attendre assez longtemps, ça devait bien demander, je ne sais même plus quoi, 2 heures, 3 heures, je suis incapable de le dire maintenant. Avec 2 enfants, l'une ne bougeait pas dans sa petite nacelle, elle n'avait que quelques mois, mais l'autre, de 3 ans, était assez dynamique et a appris ce jour-là à monter les escalators dans les 2 sens, c'est-à-dire même en montant quand il descendait.
Oh, ce jour-là, quelle horreur. Nathalie Roseau, pour voir l'aéroport d'Orly, le plus simple aujourd'hui, c'est d'être au milieu d'une marée de voitures sur le parking 3. Et devant nous, cette très 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 longue barre très épuré, avec une belle trame vitrée en façade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du point de vue de l'architecture de ce bâtiment ?
Donc le bâtiment, c'est une grande barre, très très sobre, très monumentale aussi par son échelle, qui a deux façades qui sont traitées de manière différente. Une façade côté ville, donc avec des panneaux démontables sur une trame de 8,38 m qui sera redécomposable en différents modules. Et puis côté piste, une façade beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vitrée, qui va notamment permettre de jouer sur toute une série de reflets, mais aussi d'offrir la possibilité aux visiteurs et aux passagers de découvrir l'horizon de la piste et du tarmac. Alors, peut-être faut-il resituer la naissance d'Orly Sud. De ce point de vue-là, la France regarde beaucoup du côté de l'Amérique. L'idée étant de faire d'Orly, qui a été un camp d'aviation, enfin qui est déjà une histoire derrière lui, l'un des aéroports les plus spectaculaires sur la scène mondiale, qui va à la fois témoigner de la prouesse technologique, architecturale de la France, qui s'inscrit dans le cadre de son redressement après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va aussi être un instrument, d'une certaine façon, de propagande du transport aérien, pour les futurs passagers, que sont les nombreux visiteurs qui vont séjourner à Orly. La Nationale 7 va être déviée donc, de son tracé romain pour passer en dessous de l'aérogare, ou alors l'aérogare est posée sur la Nationale 7, à la fois effectivement pour permettre l'accès par cette voie qui est historique, et ensuite effectivement derrière cela il y a l'idée d'arriver de manière frontale. On voit notamment des photos de chantier, on voit le squelette de la structure qui s'élève, c'est des photos assez saisissantes, et avec cette grande voie autoroutière qui va passer en dessous et qui fait que la voie fusionne d'une certaine façon avec l'aérogare. Donc oui, il y a l'idée d'une composition, mais d'une composition qui doit être vécue de matière cinétique par la vitesse, par l'automobile, et avec effectivement ce lien très très étroit entre l'avènement démocratique de l'automobile et l'émergence de l'aviation comme transport civil, loin d'être encore un transport de masse, mais en tout cas un transport qui est prometteur.
Ce 24 février 1961, c'est vrai qu'ils semblent tous y croire à ce futur prometteur, les invités qui se pressent dans l'aérogare flambant neuve. Les femmes sont gainées dans des jupes crayons et des chignons hitchcockiens comme on sait alors les faire, et s'extasient des prouesses de leurs ingénieurs de mari qui, dans leurs beaux costumes cintrés, avec leurs cravates fines, leurs wayfarers, sont venus célébrer la vitesse, le progrès et ces 30 glorieuses qui prennent enfin leur envol avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, lequel, bien sûr, a fait le déplacement ce jour-là pour inaugurer le plus grand chantier de France, talonné par les commentaires des journalistes. Car ici, tout est moderne et tout est le futur. Les escalators, les portes automatiques, les bagages qu'on enregistre. On s'extasie devant cette grande galerie Faste français version moderne. L'acier, le verre, la grande façade de Jean Prouvé, les immenses lustres ceints de Spot, et surtout partout ce blond Orly, un aluminium doré qui nous transporte, oui, à Versailles, et qui coûtera une fortune à entretenir. Si tout est encore là, si tout est dans son jus, qu'il est dur de se transporter dans le temps, de s'extraire des vols low-cost, des sandwichs Paul, du piétinement dans les files d'attente, des chariots bondés, des enfants qui pleurent, de la peur du crash ou de l'attentat, tout ce qui est aujourd'hui pour nous l'expérience du transport aérien. C'est donc un retour vers le futur que nous vous proposons aujourd'hui, en compagnie de Nathalie Roseau, historienne de l'urbanisme, à cette époque où les dimanches à Orly, on déjeunait, oui madame, sur des nappes blanches. Christian Lambert, vous étiez cuisinier au restaurant Les Trois Soleils.
Oui, je sortais d'apprentissage. Je sortais de Paris parce que j'avais fait mon apprentissage chez Claude Terrail à la Tour d'Argent, dans le 5e arrondissement. Et je suis rentré au Trois Soleils parce que j'avais quand même des notions de restaurant gastronomique de haut niveau. Et je suis rentré tout de suite au Trois Soleils.
Là, on est devant la Grande Galerie. Quel souvenir vous avez de cette Grande Galerie, la première fois que vous l'avez vue ?
Ah bah, moi, j'étais impressionné par les avions, évidemment. Un aéroport, c'était des avions. c'était des avions encore à hélice. Des briquets de pont, des choses comme ça. Quoi. Et ça commençait dans les années 62, 65, avec la Caravelle. Et la Caravelle, c'était le premier avion à réaction en France. Donc on avait beaucoup de monde qui venait voir les avions à réaction.
Il y a encore des choses des années 60. Hein.
Les faux plafonds, tout ça.
Les luminaires,
tout ça, ça n'a pas changé. Hein. Il y a eu des couches de peinture, mais ça n'a pas changé. Hein. Vous voyez, tous ces systèmes de plafond, tout ça, ça n'a pas changé. Tous ces systèmes de boiserie, tout ça.
Sur les murs.
Sur les murs, ça n'a pas changé. Tout ça, c'est les années de l'ouverture de la Rogard.
Donc là, on a pris un escalator et on monte dans les niveaux.
Voilà, alors de ce côté-ci du troisième étage.
L'escalator.
Ici, il y avait le bar salon de thé. Ça s'appelait La Corbeille à cette époque-là. Donc, c'est des barman qui travaillaient en smoking. Et à cette époque-là, en 62-63, dans ces années-là, c'était quelque chose de très, très chic.
Donc là, aujourd'hui, c'est fermé par
des panneaux.
Hein.
Donc, sur cette partie gauche, en montant l'escalator, nous sommes au troisième étage. Et donc, nous avions les Trois Soleils.
Où vous étiez cuisinier ?
Où j'étais cuisinier, j'étais commis poissonnier. Et au sein de tous les restaurants, le grand chef Aimé Fourmiller, à cette époque-là, gérait plus de 200 toques blanches.
C'est énorme.
C'était énorme.
Les gens qui venaient là, c'était plutôt des passagers ou des visiteurs ?
Alors, à cette époque-là, non. C'était plutôt des visiteurs. Parce que là, au gare, venait d'ouvrir pratiquement. Donc, il y avait la curiosité de l'aéroport de Paris. Ils venaient passer la journée. Et il venait même de province et il venait passer la journée entière au sein de l'aéroport d'Orly. Donc les terrasses étaient ouvertes. Donc ils allaient se promener sur les terrasses. Il y avait des services de crêperies, de gaufres, de boissons. Et il venait à cette époque-là, il y avait 6 restaurants au sein de l'aéroport et 7 bars. Donc ils avaient le temps de se restaurer. Donc ils passaient des journées entières au sein de l'aéroport. On parle ici au niveau du troisième étage, à la place sur votre droite là-bas, il y avait une mare aux canards. Il y avait une cascade. Elle se trouvait là derrière. Voilà.
Donc en effet, toujours à ce même étage, à côté des escalators, il y a la trace de bassin qui depuis ont été comblés par des galets.
Alors donc ici se trouvait une mare. Et il y avait une cascade qui était au niveau du plafond, descendait ici. Et ici, il y avait des coupes de canards. Mais ces canards, ils n'ont pas duré très très longtemps parce que je crois qu'ils ont dû passer à la casserole par des visiteurs ou des ils sont partis. Mais ici, c'était une mare aux canards. C'était superbe. Devant l'arrêt au gare même, parce qu'on est devant l'arrêt au gare, à la place des parkings, il y avait aussi une grande piscine et il y avait des cygnes. Vous voyez ? Mettez-vous dans le contexte. Mettre maintenant un bassin avec des cygnes en 2016.
Entre
avec
l'Orlival et les parkings.
Voilà, c'est ça. Et à cette époque-là, il y avait des cygnes. Et les cygnes, ils avaient coupé un peu les plumes et les ailes pour éviter qu'ils décollent et qu'ils rejoignent les avions sur les pistes.
Super dangereux.
Non, mais c'est pour vous dire comment que ça avait été imaginé, comment que c'était grandiose, c'était magnifique. Magnifique, là, au gare.
Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà les jets intercontinentaux au loin crachent leur feu sur les pistes géantes. C'est l'heure des adieux, c'est l'heure des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux, à l'heure des adieux. Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux.
Qu'est-ce qui se passait au-dessus ?
Alors, au-dessus, il y avait le cinéma. Il y avait un cinéma.
Ça paraît fou aujourd'hui, non ?
Ben, ça paraît fou. Vous aviez un cinéma, vous avez une église, une chapelle. Il y avait un hôtel aussi. On gérait aussi, la compagnie des wagons-lits gérait un hôtel au quatrième étage.
Dans l'aéroport ?
Dans l'arrêt aux gares. Il y avait une trentaine de chambres.
Avec télévision ?
Avec télévision, et voilà, et vu sur les pistes.
Déjà la ville scintille, très loin, bien au-dessous de moi. Très loin dans la plaine là-bas, déjà scintille à peine. Ah, qu'il est triste ce voyage, sans mer et sans rivage. Je me languis, languis déjà, déjà de toi.
Nathalie Roseau, on s'est un peu extrait du flux des passagers. On est monté sur la mezzanine qui servait autrefois aux passagers en transit. Ce qui est intéressant, Orly, et ce qui est un petit peu nouveau, c'est que ça n'est pas seulement un lieu pour faire partir des avions et ou les faire atterrir. On met beaucoup de choses dans Orly, et ça, c'est assez nouveau. On met quasiment toute une ville.
Oui, alors, il y a eu aussi un certain nombre de visites. Le voyage d'études réalisé par l'autorité Aéroport de Paris, les ingénieurs, les exploitants, etc., qui sont notamment allés voir ce qui se passait aux États-Unis, qui sont un peu pionniers là-dessus, et qui ramènent des rapports, des impressions, en disant que là-bas, l'aéroport est comme un théâtre. Donc l'idée, effectivement, est de spectaculariser l'aéroport, et on dira, Orly, c'est toute une ville, c'est comme une ville. Ce qui permet aussi à l'autorité aéroportuaire, et ce n'est pas anodin, d'engranger un certain nombre de recettes liées à l'exploitation des commerces, du cinéma, des restaurants, des bars et des terrasses. On vient voir non seulement les aéronefs, le tarmac, les envols, les décollages d'avions, les passagers qui ont la chance effectivement de monter dans les avions, mais on vient voir Orly Sud. On vient voir cette mégastructure, et d'autant plus que Aéroport de Paris va faire toute une promotion pour effectivement faire visiter Orly. On connaît effectivement ces différentes publicités qu'on voit dans le métro, etc. Visiter Orly avec ses parallèles dimensionnels, on vient écouter les hôtesses, on vient la voix d'ailleurs, la voix d'Orly, comme le blond Orly, va beaucoup inspirer la radio FIP qui va se créer en 1971 et qui adoptera cette voix suave. Et on a tout un système de sonorisation qui s'appelle un système de sonorisation murmurante avec beaucoup de haut-parleurs, ce qui permet d'éviter d'avoir des annonces trop fortes. On voit le raffinement d'une certaine façon d'Orly, depuis effectivement la voix de l'hôtesse jusqu'à la façade, jusqu'à l'aménagement des cloisons démontables, et où effectivement c'est une œuvre totale, hein, d'une certaine façon.
Votre attention s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, nous vous informons que tout objet ou bagage laissé sans surveillance sera systématiquement détruit.
Donc on va promouvoir effectivement la visite d'Orly en accédant en automobile ou même en accédant en vélo, puisqu'effectivement il y a le chemin de ronde tout autour de l'aéroport d'Orly qui est empruntable par les bicyclettes, ce qui va donner lieu effectivement au fameux dimanche à Orly, et qui ont marqué plusieurs générations, dont des générations d'enfants qui aujourd'hui sont un peu plus âgés, mais qui se souviennent très bien de leur dimanche à Orly. Orly est une attraction qui figure d'ailleurs dans l'officiel des spectacles.
On atteint combien de visiteurs ?
De 1962 jusqu'à 1966, on est autour de 3 à 4 millions de visiteurs par an. Et là où on se bagarre, c'est est-ce que c'est le premier monument de France visité, ou alors ce qui se passe derrière le château de Versailles ? Enfin, on compare avec des monuments extraordinaires, la Tour Eiffel étant reléguée bien derrière, effectivement, Orly et le château de Versailles.
Il y a longtemps que plus personne ne vient admirer les avions, et longtemps que les terrasses sont fermées. On y accède après vérification des identités, des badges et déverrouillage à distance de portes opaques au fond d'un étroit couloir. Adieu la mise en scène, adieu le fast.
Je vous en prie.
Au revoir.
Je vous en prie.
Mais pourtant, monter sur les terrasses d'Orly, c'est faire cette étrange expérience de reconnaître un lieu dans lequel on n'est jamais venu, d'être jeté dans un passé dont on aurait quelques souvenirs sans l'avoir vécu. Là-haut, dans le bruit des réacteurs et la chaleur du kérosène, rien n'a bougé, comme si on avait jeté la clé hier. les pattes de verre bleu azur sur les murs, le lettrage sur les portes, les tables d'orientation qui indiquent au badaud du dimanche la direction de Sydney ou Tokyo. Alors on cherche désespérément des yeux la grande jetée, persuadé qu'on saura se repérer sur ces immenses terrasses comme dans une photo de Chris Marker. On se dit que peut-être vont surgir un enfant, un homme, ou qui sait, le visage d'une femme blonde. On flotte entre hier et aujourd'hui, dans la modernité surannée d'Orly.
Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée.
Une, deux, trois niveaux. Alors, trois niveaux de terrasse. Là, nous sommes ici, nous sommes au quatrième, cinquième, sixième, septième étage. Alors, tout ça, c'est le dimanche, le week-end ici, c'était noir de monde. Noir de monde. Quand vous pensez que les grands départs en vacances, on faisait 5000 couverts en restauration. L'entrée de la Rogard en visiteurs, ça citait par milliers de visiteurs, des gens qui se promenaient, qui venaient voir les avions.
Et alors, on est vraiment juste au-dessus du tarmac, on entend les avions, hein, là, on entend les... C'était comme ça, c'était bruyant comme ça
C'était bruyant, mais c'était pas le même bruit. Parce que je veux dire une chose, il y avait très peu de caravelles en 62-65, très peu de caravelles, donc le bruit de la caravelle a été à peu près un peu plus puissant que le Corsair, là, que l'Airbus. Mais qu'est-ce qui était charmant, c'était les avions à hélices. Parce que je dis, les avions à hélices, c'était un bruit pétaradant. Des fois, il y avait des flammes qui sortaient des moteurs à l'arrière, une fumée d'enfer, et c'était un bruit. Mais c'était super de voir des avions décoller.
On avait des bornes d'accès, donc on mettait le ticket de quai qu'on achetait, donc pour la somme modique de 50 centimes, puis de 1 franc, parce que l'ADP s'est dit que c'était tout à fait bien d'augmenter le prix pour pouvoir engranger plus de recettes, puisque ça avait autant de succès. Des bacs à sable hein, qui existaient aussi, où les enfants jouaient. Les familles étaient vraiment endimanchées, enfin c'est pas pour rien qu'on parle des dimanches à Orly. Et puis on avait des speakers aussi qui commentaient les arrivées, les départs, éventuellement telle ou telle personne qui prenait l'avion, un peu comme une sorte de représentation théâtrale ou un match de sport. Et puis après, redescendre à l'intérieur de l'aérogare pour aller prendre un verre, aller au restaurant, sillonner les commerces et puis y retourner. Des terrasses, c'est à la fois leur succès absolument fabuleux et puis en même temps leur fermeture suite notamment à une série d'événements et aux premiers attentats qui ont marqué la plateforme, notamment Carlos pour le Front de la Libération Palestinienne qui d'une certaine façon marque le début de la fin de l'accueil du public à Orly. Mais derrière cela, c'était aussi le fait que l'ère de la figure du visiteur était achevée au profit de l'ère de la figure du passager. Et qu'effectivement, le visiteur n'était plus forcément l'un des publics privilégiés de l'aéroport. Donc on est vraiment dans une phase de transition avec à la fois effectivement le monument Orly qui est célébré et puis en même temps déjà l'anticipation sur ce que va être le futur du transport aérien, le futur de la pratique du transport aérien, où à l'occasion notamment de la conception de Roissy, on commence à imaginer des pièges à visiteurs, c'est-à-dire des moyens effectivement d'éviter que les visiteurs ne viennent trop nombreux à Roissy, parce que les exploitants n'ont qu'une envie, c'est de faire circuler les passagers et voient bien qu'effectivement il y a une contradiction, il y a une confrontation entre à la fois effectivement le monument qui permet de séjourner à l'aéroport toute la journée et puis en même temps l'équipement qui doit faire circuler les flux. Donc ces pièges à visiteurs, on retrouve ça dans un certain nombre de notes internes d'Aéroports de Paris, qui consistent à ne pas faire de terrasse à Roissy, à rendre payants les parkings ou à les exfiltrer à l'extérieur. Et Roissy va s'inscrire effectivement dans un coup d'outrage.
Monsieur là, bonjour. Bon, sur quelle destination ? Marrakech. Marrakech, parfait. Je vais prendre des passeports s'il vous plaît.
Sonia Benkezi, c'est quoi de travailler à Orly ?
Alors, travailler à Orly, c'est du sport. Parce qu'en fait, avec l'augmentation des vols sur Orly Sud par rapport à quelques années, c'est vrai que maintenant, voilà, on a pas mal de vols et de belles destinations qui se sont rajoutées. Comme nous, WFS, en fait, on s'occupe de différentes compagnies. Il faut savoir, voilà, dès qu'un vol est terminé, regarder à vue de tête si tout se passe bien sur le compagnie, mettre des renforts, enfin, voilà, c'est une sorte de hub, en fait. Donc voilà, on est une sous-traitance, mais il faut vraiment être vigilant sur toutes les compagnies pour justement faire en sorte que voilà, les avions partent, les passagers aussi. Parce que des fois, notre rôle aussi, c'est de indirectement de speeder les passagers, parce que les passagers, une fois qu'ils sont enregistrés, ils sont déjà dans l'avion. Alors nous, notre rôle, c'est de devoir dire « Messieurs, dames, il faut monter. Messieurs, dames, vous êtes arrêtés là. Allez-y, on vous accompagne en porte d'embarquement. » Donc voilà, donc c'est pour ça qu'au final, c'est du sport.
On peut dire qu'il y a beaucoup de changements effectivement dans l'évolution du trafic aérien, le passage de la figure du visiteur à la figure du passager, la massification et donc la nécessité de traiter des flux tout en respectant quand même un certain nombre de contraintes de temps, parce qu'il ne s'agit pas de passer plus de temps à l'aéroport que dans l'avion, même si pour certaines destinations c'est le cas. L'un des grands changements, alors qui ne date pas non plus d'hier, c'est la question de la sûreté. Dès 75 et 78, un certain nombre d'attentats ont lieu effectivement à Orly, qui du coup touchent à la nature très positive et très optimiste d'Orly. C'est-à-dire que l'actualité politique s'invite à Orly, et y compris effectivement ses revers les plus sombres. Donc un changement qui du coup s'est traduit aussi par toute une série d'aménagements supplémentaires, de filtres, de protections, de barrières, de clôtures qui ont surenchéri, je dirais, par rapport aux aménagements qui avaient été faits précédemment.
Et donc du coup, plutôt que d'être désormais l'aéroport une promesse du futur, ou en tout cas la promesse d'un futur plutôt radieux, on est dans l'incarnation d'un présent et peut-être même d'un futur plus incertain.
On est toujours dans cette idée que l'aéroport est une forme d'anticipation de ce qui advient, mais une anticipation réelle, mais évidemment avec un discours moins enchanteur, même si en même temps on a une sorte de superposition de représentation, puisqu'on a aussi la communication des autorités aéroportuaires, des compagnies aériennes bien sûr, qui dans leur publicité vantent effectivement l'idée de l'envol, enfin reviennent sur la rhétorique et puis le discours de l'avion comme synonyme de luxe, comme synonyme de voyage, etc., alors que le voyage a changé de statut.
À Orly le dimanche, les parents ne mènent plus leurs enfants voir les avions en partance. Les escalators qu'ils s'amusaient à remonter à l'envers ne débouchent plus sur la mezzanine des passagers en transit, mais dans un McDo qui s'est payé la vue sur le tarmac. Au milieu de la grande galerie, sans cérémonie, on a installé des fils de guidage et des portiques pour la masse de passagers agglutinés devant les contrôles de sûreté. Le blond Orly s'efface derrière de grands panneaux publicitaires qui pendent du plafond. Sur la belle esplanade, on a excavé tout ce qu'on a pu pour caser deux parkings en silo, des bretelles d'autoroute, l'Orlyval et même un tram. On n'arrive plus ici en majesté, mais dans le temps contracté des chantiers successifs. Alors, dans la magnifique aérogare d'Orly, l'anticipation ressemble un peu à une fuite en avant.
Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.
C'était Le génie des lieux, épisode 4, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité. Avec Nathalie Roseau, Christian Lambert et Sonia Benkelil. Prise de son, Étienne Leroy. Mixage, Stéphane Desmond. Une émission de Camille Jusa, réalisée par Lionel Quentin.
C'était Le génie des lieux, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité, une émission de Camille Jusa, diffusée le 31 juillet 2016 sur France Culture. Réalisation, Lionel Quentin.